Bonjour à tous, je suis Alice Hachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Paula Michaelis, la cofondatrice de Green is the New Black, dont la mission est d'encourager les gens à créer ou à participer aux initiatives positives autour d'eux et qui s'impose comme un média influent en Asie, mais également comme l'un des organisateurs majeurs des événements green qui voient le jour à Singapour ou Hong Kong. Et récemment, Paula s'est associée à Stephanie Dixon, c'est ça ?
C'est ça.
Pour proposer The Conscious Festival, qui va avoir lieu là très prochainement. Ça va avoir lieu quand ?
Du 24 au 26 septembre.
Donc, c'est dans quelques jours.
Oui, c'est dans 3 semaines. Donc, c'est vraiment très, très proche. Et donc là, c'est la dernière ligne droite. On est super contents.
D'où vient... est-ce qu'on commence par ton parcours ? Parce que je crois que tu as fait de la finance, non ?
Oui.
J'adore le... Oh là là, quel enthousiasme ! Tu as adoré, j'ai l'impression.
Oh là là. Alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir danseuse au Crazy Horse. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le bond que j'ai fait.
D'où t'étais venue cette idée ? T'y allais régulièrement quand t'étais petite ?
J'étais fan de danse, j'étais fan de cabaret. J'ai été élevée au comédie musicale, donc j'adorais tout ça. Et en fait, je me suis un peu bridée, parce que je pense que j'ai eu un peu le poids de la société qui m'a empêchée de suivre ma destinée au départ. Et je me suis aventurée dans une école de commerce, parce que j'avais envie d'avoir une certitude dans mes revenus. Et donc, j'ai fait une des meilleures écoles de commerce de France parce qu'il fallait faire la meilleure.
Tu cochais les cases.
Je cochais les cases, exactement. Et je me suis retrouvée en banque d'investissement, mon premier taf. Et donc là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, en fait.
C'était pas du tout toi, en fait.
Pas du tout moi. J'ai fait une petite dépression et ça a été ma première réalisation, en fait, que je n'étais pas du tout alignée avec mes convictions profondes, mes passions. Je n'étais pas dans mon élément. Donc, j'ai switché complet et je suis repartie en Asie où j'avais déjà fait un échange universitaire à Hong Kong. Et donc là, j'ai découvert l'entrepreneuriat social.
Je t'avais posé cette question justement, pourquoi l'Asie ? En fait, tu avais déjà été faire un échange là-bas ?
Oui,
et tu avais adoré ?
J'avais adoré, j'ai toujours entendu parler mes parents de l'Asie, ils ont fait leur lune de miel à Bali. Donc c'est vrai que dans mon imaginaire d'enfant, j'ai toujours eu ça en tête. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire un échange universitaire, comme beaucoup d'étudiants. Et donc j'hésitais entre l'Amérique du Sud ou l'Asie. Et j'ai choisi l'Asie, j'ai jamais regretté, c'était absolument incroyable.
Et donc c'est là-bas que tu as eu l'idée de Green is the New Black ?
Oui, en fait, je me suis associée à Steph, en fait, au niveau du média aussi. Donc Steph, c'est la fondatrice du média Green is the New Black. Moi, je l'ai rejoint en tant que cofondatrice. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rejoint une petite start-up à l'époque qui s'appelait Gone Adventurine, qui est une start-up de consulting qui aidait des corporates de grands groupes à créer en fait des expériences pour eux afin qu'ils se reconnectent à leur sens et à leur mission. Donc, je me suis baladée dans toute l'Asie du Sud-Est et je faisais des vidéos, des documentaires pour inspirer ensuite les consommateurs, les employés, pour faire de la RSE en fait. C'était les débuts de la RSE. Et donc là, je me suis retrouvée à aller à des conférences sur des thématiques green, des conférences très corpo, très soporifiques, j'adore ce mot. Et d'un autre côté, je me retrouvais aussi à des rencontres plus militantes, plus activistes. Et donc, je me retrouvais pas vraiment, parce que moi, à l'époque, avant de faire de la banque d'investissement, j'avais aussi exploré la possibilité de travailler dans le luxe. Donc, encore une fois, tu vois, j'étais la petite fille modèle parfaite. Il faut que je travaille dans le luxe, dans ce qui fait rêver.
Donc, ces cases encore à cocher.
Exactement. Mes deux premiers stages, je les ai faits chez Chanel, chez Hermès. Donc, j'avais cette envie, tu vois, de travailler pour des grandes maisons, etc. Mais je pense que c'était aussi aligné finalement avec moi parce que j'adore l'esthétique du beau, du luxe, du savoir-faire, de la transmission de savoir de génération en génération. Et je trouvais que dans l'écologie, en fait, il n'y avait pas cette esthétique. Donc, j'ai eu l'idée très vite de créer un média qui allie en fait les codes de l'esthétique, un peu du luxe, du marketing, un peu pop et de l'écologie.
Et pourquoi ce nom alors, Green is the New Black ? C'est Stéphanie qui a eu l'idée ?
Oui. Green is the New Black, c'est une expression en anglais. Le vert et le nouveau noir, ça veut dire quelque chose devient la mode, en fait, devient la
tendance. Parce que black, avant, c'était un peu... Ça, c'est, pour moi, c'est plutôt un côté dark. Ouais. Le noir que le côté mode, mais après, c'est peut-être mon côté dark qui s'exprime.
Non, c'est vraiment, c'est une expression idiomatique, c'est pour ça, ouais, anglaise, qui dit que...
Et alors, pourquoi Singapour au début pour lancer ce festival? D'ailleurs, tu peux peut-être me parler un peu du festival qui arrive.
Oui. Donc, en fait, voilà, suite aux expériences avec Stéphanie, où pareil, elle était dans le même mode, c'était soit très corporate, soit très activiste, l'idée nous est venue, en fait, de créer un espace chaleureux qui nous ressemble. Voilà, on avait 25 ans, un espace où on pouvait se retrouver, poser toutes les questions qu'on voulait autour de sujets écologiques, sans avoir peur de passer pour des connes, de ne pas trouver de réponse. Et donc, on a créé les Conscious Festivals, qui sont en fait des espaces de rencontre avec des conférences, des ateliers, un marché créateur, de la musique, de l'art, autour de la transition écologique.
Un lieu de vie, presque, en fait.
Exactement. Un lieu de vie où on essaie de faire passer des messages, non pas à travers la tête uniquement, mais aussi à travers le cœur. Ça fait un peu discours hippie, mais il y a des réelles études scientifiques qui prouvent que le cœur, en fait, on a plein de neurones et que si on parlait avec notre cœur tout le temps, on prendrait de bien meilleures décisions que de rester à l'échelle de la tête, de l'intellect, quand il s'agit de réfléchir aux idées, aux choses. Mais en fait, ça nous bloque dans des systèmes, des structures qui ne nous font pas avancer.
Et il est ouvert à qui, du coup, ce festival? À tout le monde?
Le festival est ouvert à tous. On a même une partie corporate, c'est-à-dire que le festival cette année, c'est sur 3 jours. Ça se passe dans un nouveau lieu qui s'appelle la Caserne, qui est un lieu magnifique. C'est un accélérateur de transition écologique de la filière mode et luxe dans le 10e arrondissement. C'est vraiment sublime. C'est 4000 m², une ancienne caserne de pompiers avec 800 m² de cour intérieure. Et donc, le marché créateur dont je vous parlais va se passer dans la cour. On a essentiellement des marques de mode qui vendront leurs produits. Essentiellement des marques voilà, qui vendront aussi des invendus et des défauts de fabrication.
Parce que même des pièces uniques.
Des pièces uniques, voilà.
Moi, j'adore le côté unique, même si c'est... Au contraire, je trouve que ça a ce charme, le côté invendu, le côté défauts de fabrication.
Totalement, et célébrer les imperfections, en fait.
Complètement.
Qu'on a tous, et accepter la complexité de l'être humain, accepter qu'on... On n'est pas tous parfaits tout le temps.
C'est peut-être aussi une nouvelle vision du beau. Le beau, c'est pas la perfection, que ce soit aussi même pour l'être humain.
Bah oui,
c'est dans l'imperfection que réside le charme aussi.
Ouais,
je pense que c'est la même chose pour ce que l'on porte. Et alors, moi, j'ai une question. Pourquoi d'abord, c'était à Singapour? Il y avait un choix de...
Alors, effectivement, tu m'as posé cette question. J'ai vraiment débarqué à Singapour dans le cadre de mes études.
Ouais, donc pour ça que tu l'as lancé là-bas. C'était pas parce que c'était un lieu spécial
Pas du tout. Et en fait, j'aimais pas Singapour. À la base, je voulais retourner à Hong Kong où j'avais déjà fait un échange universitaire. Et Singapour, c'est... Je sais pas si tu y es déjà allé.
Non. Bah, j'ai pas eu cette chance.
Ouais, c'est un État quasi totalitaire. C'est-à-dire que c'est un président, Lee Kuan Yew, fondateur, qui a créé en fait une superpuissance mondiale en l'espace de 60 ans. C'est-à-dire que c'était rien dans les années 50, c'est devenu la première puissance d'Asie et un des premiers ports au monde en l'espace de 60 ans. Et il l'a fait d'une façon très, très, très autoritaire. Ce qui fait que c'est un pays où tout tourne très bien, mais en même temps... Nous qui sommes français, qui avons été habitués à cette espèce de charme à la française, qui est un peu chaotique.
Le mythe de jeter son chewing-gum par terre, qui est...
Oui, c'est vrai.
L'acte pour lequel on se prend une amende, c'est vrai ça?
Ah oui, c'est vrai, tout à fait.
Oui, d'accord.
Ah.
Oui, oui, okay.
C'est-à-dire que les seuls crimes qu'il y a à Singapour, c'est des personnes qui auraient cueilli des fleurs ou qui auraient arraché. Il y a quasiment aucun crime, en fait, à Singapour. Et tout est très surveillé, c'est un État qui est très policier. Mais en même temps, c'est vrai qu'on vit dans un confort, dans une bulle, qui nous aspire. Donc moi, j'y suis restée, je vais rester 6 mois, j'y suis restée 4 ans.
Et pourquoi t'es partie alors?
Je suis partie parce que, pour une histoire d'amour. Hein.
Toujours.
La classique.
Toujours la classique. Et tu serais restée, tu penses, sinon?
Je pense que je serais restée à Hong Kong. C'est-à-dire qu'après Singapour, on a fait l'expansion de Green is the New Black à Hong Kong, c'est moi qui l'ai faite. Et donc là, je serais restée un peu plus, à Hong Kong. Mais Hong Kong aussi, je sais pas si t'as suivi l'actualité, mais... C'est un pays qui était sous protectorat anglais et avec un contrat.
J'ai fait un petit tour, moi, à Hong Kong. Je vois un petit peu.
Donc là, la Chine est en train de reprendre ses droits sur Hong Kong. Et Hong Kong a toujours été un pays, du coup, ultra cosmopolite, avec plein de cultures, de vibes différentes. Et le fait que la Chine reprenne ses droits fait que Hong Kong est en train de s'éteindre un petit peu dans son unicité.
Mmh. Ouais. Et là-bas, ces sujets green? Et t'es déjà un peu au cœur des préoccupations ou pas trop?
C'est une question qu'on pose tout le temps et j'adore parce qu'en Europe, j'ai l'impression qu'on pose souvent la question, est-ce que t'étais pas frustrée qu'en Asie, en fait, il se passe rien, qu'ils s'en foutent? et dans une espèce de jugement en fait des Européens envers les Asiatiques qui sont vus comme des mangeurs de viande,
des consommateurs de plastique.
Des consommateurs de plastique.
C'est quand même vrai, c'est pour avoir vécu à Shanghai, moi, il y a quand même beaucoup de plastique.
Ouais.
On peut pas, ils adorent, ils ont quand même un culte pour le plastique. Après, pour le reste, moi j'étais quand même presque 10 ans, c'était pas trop au cœur des consciences là-bas, mais toi peut-être que tu as une autre.
Ah, moi j'ai.
Une version. Puis tu étais quand même à Hong Kong, c'est déjà différent.
Hein. Ouais, et j'ai eu l'occasion aussi d'essayer d'étudier un petit peu les problématiques dans chaque pays. Une des problématiques que je connais bien, du coup, c'est les déchets. Parce que dans ma première boîte que j'avais rejoint, on a fait beaucoup de projets autour de l'économie circulaire. Et c'est vrai que le premier pollueur d'Asie en matière, ou du monde en matière de déchets, c'est l'Indonésie. Parce que tous les plastiques se retrouvent en Indonésie, il y a des courants, des océans. Et aussi, ils ont plein de décharges de déchets à ciel ouvert. Et dès qu'il pleut, en fait, tout ça tombe dans les rivières et les rivières vont dans les océans. Donc l'Indonésie, c'est un pays très polluant en matière de déchets. Donc effectivement, il y a plein de problèmes. Mais ces problèmes, ils sont non pas liés au fait que les gens polluent ou qu'ils n'ont pas de conscience écologique, mais vraiment à l'infrastructure et au système qui ne fonctionne pas et au fait que les pays aussi occidentaux envoient leurs déchets en Asie. Donc ça, c'est un exemple très particulier, les déchets. Mais sinon, en Asie, je trouve que les Asiatiques, ils ont une conscience écologique, ils sont liés à leur... en fait, à leur spiritualité, c'est-à-dire leur religion, et ils sont jamais déconnectés de ça. Donc, ils ont un rapport au monde et à la nature qui est beaucoup plus fort que nous, citadins, dans nos villes occidentales.
Mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps qui montrait que, en fait, l'Europe, par rapport aux émissions des États-Unis et de la Chine, c'était peanuts, et que même si on était 100% green ou renouvelable, etc., en fait, tant que les États-Unis et la Chine polluaient autant, on courait quand même à la catastrophe.
Oui, bien sûr.
Et là-bas, tu me dis qu'il y a quand même des initiatives qui sont...
Taipei, par exemple, ou Taïwan. Mm. Donc, Taïwan, c'est un pays qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte dans les années 80 qu'il y avait un énorme problème de pollution et qu'il fallait y remédier. Donc, ils ont fait en sorte de taxer les personnes en fonction du kilo de déchets que les habitants génèrent.
C'est ce qu'on devrait faire ici.
Ce qui
fait... Je me tuer de dire ça, mais je pense qu'il faudrait le faire un peu partout.
Hein. Ouais.
Après, en fonction aussi du nombre de personnes dans la famille. Enfin, que chaque personne, en fait, a un
c'est
kilo
ça.
De...
Ouais. Ouais. Et moi, je suis tout à fait pour. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a aucune poubelle dans les rues. Il n'y a rien. Et c'est tout clean, tout propre. Donc, encore une fois, c'est des méthodes qui, pour nous, en tant que Français, on se dirait, ouais, on irait dans la rue parce que ce serait une entrave à nos libertés et on serait en train de protester. Mais je trouve que c'est des beaux modèles, en fait, où ils pensent au collectif avant de penser à l'individu. Ça, c'est aussi une grande différence entre l'Asie et l'Europe. Ensuite, en Asie, c'est vrai qu'il y a plein de boîtes européennes, occidentales, tu sais, comme Unilever, Danone, Nestlé, toutes les boîtes de la grande consommation, qui, elles, ont déjà des politiques stratégiques RSE qui sont déterminées au siège. Et les sièges, c'est en Europe, donc du coup, avec des politiques déjà très ambitieuses.
C'est uniformisé, du coup, quand même un peu.
Et ils essaient d'appliquer les mêmes modèles en Asie. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de recul et d'envie de mettre un plan stratégique sur comment est-ce que ces stratégies RSE, elles peuvent se mettre en place en Asie.
Donc toi, tu as quand même plutôt une vision positive et optimiste de ça. Tu penses que vraiment, ça va bouger dans le bon sens?
Non, mais il y a une stat que j'adore, c'est en fait, 70% des émissions de carbone viennent de 3% des villes. Donc, c'est quand même...
Et même des hommes, il y a des humains qui, à eux seuls, polluent presque autant que...
Oui, c'est
que
il y a d'autres stats, 10% des plus riches polluent 50%, etc. Donc, on sait très bien d'où viennent les émissions. Maintenant, en fait, il faut regarder les faits, je trouve, d'un point de vue pragmatique et prendre ça comme un projet. Et aujourd'hui, en écologie, on reste toujours à l'échelle un peu émotion, on est en colère, on ne sait pas quoi faire, ou alors on est dans le déni. Et le jour où on aura accepté, en fait, on aura fait le deuil de l'ancien monde tel qu'on le connaissait avant, on pourra avancer et prendre des décisions de façon plus pragmatique.
Et donc, ce festival là, qui arrive prochainement, c'est la première en France.
C'est la première en France, c'est la 8e dans le monde, ouais.
Et en plus, post-Covid, on est toujours dedans, on est toujours dans le Covid, mais quand même, c'est un événement, c'est quand même un secteur qui a été assez impacté, l'événementiel. Donc,
c'est n'importe quoi, en fait. Tous les jours, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris cette décision? C'est fou.
Mais en même temps, ça t'anime.
Ah oui, ça m'anime complètement, mais c'est hyper stressant d'organiser un événement pendant le Covid. On ne sait pas de quoi demain est fait.
Et quels sont après ce Conscious Festival? C'est quoi tes challenges?
Oula, Alors déjà, pendant le Conscious Festival, l'idée, c'est de créer une communauté qui commence avant le festival. Et donc là,
c'est une communauté aussi que tu partages sur les réseaux, etc.
Oui, une communauté sur les réseaux, une communauté aussi de personnes qui me demandent « Ah, il y a cette marque qui arrive, est-ce que tu peux mettre en contact ?» Donc, il y a déjà plein de conversations en fait, qui sont en train de se monter. Et le festival, c'est vraiment un petit peu l'apogée de tout ça. Et j'espère qu'il y aura plein de contrats qui vont signer entre des startups, des innovations, des grands groupes, entre des startups entre elles.
Presque un lab,
expansions.
En fait.
Ouais, c'est
un petit lab.
Ouais. Et exactement, le Conscious Festival, on l'a vraiment conçu comme un exemple sur ce qu'on pourrait faire au quotidien si on décidait d'être conscient de notre empreinte carbone et de tout ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on se déplace d'un point A à un point B, comment est-ce qu'on place notre argent, etc.
Et ça, si ça marche bien, tu penses qu'il y aura une édition chaque année?
J'adorerais faire une édition chaque année.
D'ailleurs, j'ai une question des auditeurs, puisque ouais. Maintenant, je pose un jour avant... Avant d'avoir mon nouvel invité dans l'empreinte, une question aux auditeurs de l'empreinte. Ils me demandaient, donc j'ai sélectionné celle-là, si tu pensais aller dans d'autres villes que Paris. C'est le côté, peut-on avoir ça à Strasbourg ou à Lille? Parce qu'il faut quand même réciter, c'est quand même grande ville.
Ouais. Mais le cœur du festival, c'est vraiment de mettre l'expérience en tant que transmetteur de messages. Donc, l'expérience artistique, culturelle, c'est pour ça qu'on a un gros volet musique, performance spontanée. Et en fait, le modèle du Conscious Festival, je serais ravie qu'il soit développé dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on me demande Monaco, Vancouver. Il y a quelqu'un qui m'a dit, viens, on le ramène à Vancouver, à New York. C'est trop cool. Moi, j'adorais. C'est trop bien.
Mais donc, c'est vrai que potentiellement, oui, si ça prend bien. Il faut que la communauté prenne et qu'elle soit internationale.
Qu'elle soit internationale et qu'on réfléchisse aussi à ne pas tomber dans l'écueil de devoir être internationale parce que c'est cool. Et aussi faire en sorte que les gens ne voyagent pas trop, parce que ce n'est pas le but. Donc, c'est pour ça que le Conscious Festival, cette année, il se passe en simultané à Londres et à Singapour, mais le tout est connecté à travers de la vidéo. Donc, c'est ça aussi la beauté.
Tu réponds à une de mes questions.
Ouais, c'est la beauté du Covid, au final. C'est que le Covid nous a permis de penser d'autres formats d'événements, le fameux mot « figital », je ne sais pas si vous connaissez, physique et digital. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça crée en fait une nouvelle façon de repenser les collaborations d'événementiel.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite alors?
Tu peux me souhaiter de déjà ne pas mourir après cette édition.
Tu sais que tu vas avoir une descente hein, parce que tu vas être
un shoot
comme
dernière
ça.
Année.
Mais derrière, la semaine qui suit, je te promets, tu vas être à la petite cuillère.
Hein. Ah, je sais. Je suis déjà préparée. Hein. Je vais descendre.
Mais ce sera bien aussi, tu pourras dormir.
Ouais.
Est-ce que tu aurais un mot à dire à nos auditeurs avant la fin de cet épisode? Je ne sais pas, un mot, une inspiration, quelque chose qui te passe par la tête.
J'ai envie de leur dire que si vous voulez faire du bien à la planète, vous pouvez aussi le faire à travers votre job actuellement, c'est-à-dire en essayant de changer votre collègue de bureau ou... C'est vrai, ou des petites habitudes, ou mettant en place des petits projets. J'ai plein d'exemples si vous le souhaitez. Si vous voulez devenir entrepreneur, c'est aussi une aventure qui est géniale. Mais il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour changer le monde, en fait.
Et que... il n'y a pas besoin d'avoir cette éco-anxiété aussi, peut-être. Ouais. Parce que souvent, les gens ne savent pas par où commencer. Ils se disent, oh, c'est trop compliqué pour moi, il faudrait tout revoir. Non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Hein. On parlait de l'imperfection. Il n'y a personne qui est parfait en matière d'écologie. Et je pense que c'est pareil, faire du mieux qu'on peut, peut-être.
Faire du mieux qu'on peut et surtout accepter que tout commence par des petites réflexions, des petites pensées, des petits pas. Et c'est en essayant d'être un petit peu focus tous les jours un petit peu que ça va marcher.
Merci.
Merci
J'ai
à toi.
J'ai hâte d'aller voir ce festival.
Ouais, ça va être trop cool.
Ouais. Moi, j'y serai d'ailleurs. C'est le 24. Hein,
ouais, toi, tu viens le
24. Je vous donne rendez-vous là-bas. Alors.
Ouais.
Bah, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et bonne écoute.